prétend plus être la même chose que raconter une histoire. Depuis donc que les sciences humaines et sociales se sont progressivement séparées de la littérature, le récit ne semble pourtant de cesser de faire retour dans ces disciplines. L'histoire, bien sûr, mais aussi l'anthropologie ou la sociologie, par exemple. Qu'en est-il aujourd'hui, alors que nombre d'écrivains et d'écrivaines se nourrissent plus que jamais des SHS et qu'à l'inverse, nombre de chercheurs et de chercheuses aspirent à produire, si ce n'est de la littérature, du moins des formes qui s'en rapprochent. Un livre collectif de la précieuse collection Enquête permet de faire le point et l'un de ses co-directeurs, Laurent Jean-Pierre, est ce soir l'invité de la suite dans les idées.
France Culture, la suite dans les idées. Sylvain Bourmont.
Et il est accompagné de Sophie Houdard, qui est anthropologue et qui est l'une des autrices de ce volume collectif. C'est une troisième personne, artiste, poète, Franck Lebovici, qui nous rejoindra pour la deuxième partie de l'émission pour dialoguer avec ces deux chercheurs. Et puis enfin, la dernière partie de l'émission, la rubrique actualité, sera consacrée à l'anniversaire, aux 10 ans d'une collection importante pour les sciences humaines et sociales, pour les sciences sociales, l'envers des faits, la collection que co-dirige Fabien Truong et Paul Pasquali, pardon, c'est Paul Pasquali qui nous rejoindra pour en parler. Bonjour Laurent Jean-Pierre, vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université Paris 1 et bonjour à vous Sophie Houdard, vous êtes directrice de recherche au CNRS, anthropologue. Laurent Jean-Pierre, vous avez co-dirigé avec une historienne, Marion Fontaine, qui n'est pas là ce soir, ce volume de cette série de livres qui s'appelle Enquête. Et c'est une forme de retour aux origines de cette précieuse collection, comme je le disais, puisque le premier volume, il y a 30 ans, était précisément consacré au même sujet. Et donc, c'est une manière de, là aussi, fêter un anniversaire, de faire le point dans un moment qui est très différent dans l'histoire des sciences humaines et sociales. Mais déjà, à l'époque, Jacques Revel notait qu'il y avait un retour permanent du récit. Et donc, vous vous inscrivez, au fond, dans ce retour qui, contrairement aux apparences, n'a jamais cessé, Laurent Jean-Pierre.
Tout à fait. En fait, le numéro prend place à un moment où on a l'impression qu'il y a un nouveau retour du récit. Alors, on l'entend aussi bien, effectivement, scientifiquement, on l'entend éditorialement, où les éditeurs de sciences humaines cherchent beaucoup de formes narratives. On l'entend culturellement aussi, on parle beaucoup de séries télé, de journalisme narratif.
Bah c'est pour ça que j'ai titré l'émission « Le retour du récit, saison 3, épisode 2 ».
Oui, bah tout à fait, voilà, on est en pleine série. Et donc, effectivement, en prenant un peu de recul, on se rend compte que ce retour n'a rien de nouveau, qu'en réalité, le diagnostic de retour du récit avait été fait, comme vous l'avez rappelé, dans le premier numéro d'Enquête, donc à l'époque, qui était une revue et pas une collection, qui avait été créé par Jean-Claude Passeron, sociologue, et Jacques Revel, entre autres. Et donc, effectivement, le Jacques Revel notait que, au fond, cette question du récit était réapparue à partir des années 70 et notait plus généralement, comme d'autres chercheurs de l'École des hautes études en sciences sociales qui avaient consacré plusieurs années de séminaire à cette question, qu'au fond, le récit était une polarité assez fondamentale de à la fois de la restitution, mais aussi de la construction des enquêtes en sciences sociales. À côté, ou hybridé avec, disons, un autre pôle plus objectiviste qui était le pôle de la modélisation. Et donc, ce qu'on a voulu faire avec ce numéro, c'était un peu de sortir, d'un champ polémique où la question du récit avait été instruite sous l'angle du rapport à la vérité, du rapport entre fiction et histoire, et donc avec l'idée qu'il fallait juger, que les chercheurs en sciences sociales devaient défendre, au fond, un précaré peut-être scientifique contre des attaques narratives. On a voulu sortir, de ce débat polarisé qui a beaucoup traversé l'histoire en particulier, on y reviendra peut-être, pour essayer de cartographier, 30 années, mais c'est évidemment un peu prétentieux de dire ça, en tout cas, des types d'usages du récit en sciences sociales dans plusieurs disciplines et à travers évidemment des contributrices et des contributeurs qui ont bien voulu participer au numéro, dont Sophie Houdard.
Alors Sophie Houdard, avant qu'on entre avec vous et Laurent Jean-Pierre dans le détail de ce qui fait ce livre, ce volume collectif, peut-être votre sentiment sur ce énième retour, sur ce que je perçoit, pour ma part, depuis quelques années, comme une forme étrange de chiasme, au fond, entre, d'un côté, un univers des sciences humaines et sociales où de plus en plus de livres aspirent à une forme de littérature, où on voit des auteurs plus ou moins revendiqués, d'ailleurs, leur envie, non pas de devenir des écrivains, mais quand même de proposer des choses qui prennent des formes différentes. Et puis, d'un autre côté, la littérature, enfin, du moins la littérature qui m'intéresse le plus, notamment du côté de la poésie, en fait, essayer de proposer des manières de s'arracher aux récits, aux histoires, d'arrêter de faire des histoires avec tout ça pour, en fait, trouver des dispositifs d'objectivation un peu différents, qui peuvent d'ailleurs s'inspirer, on en parlera avec Franck Lebovici, des méthodes des sciences sociales. Ça, c'est l'impression que moi j'ai. J'aimerais avoir la vôtre.
Alors, à vrai dire, je suis pas certaine qu'on puisse généraliser à l'ensemble, ou qu'il y ait quelque chose à gagner à généraliser la discussion à l'ensemble des sciences sociales, parce que je pense que la question du rapport entre fiction et réel s'est posée très différemment suivant les disciplines. Et je connais moins comment le débat s'est posé, s'est construit en histoire et en anthropologie. Tout ce que je peux dire, c'est par rapport à l'expérience que j'en ai, qui est une expérience avec un recul de quelques 30 années. En anthropologie, au moment où je fais ma thèse, au milieu des années 90, je suis dans un laboratoire, comme le même qu'aujourd'hui d'ailleurs, d'anthropologie générale, où la question de l'écriture, la simple question de l'écriture, on parle même pas de récit, on parle de la question de l'écriture, ne comptait pas. Donc on est encore dans une époque au milieu des années 90 où il n'y a pas d'atelier d'écriture et la considération de ce que c'est que écrire, qu'est-ce qu'on fait au moment où on écrit, quand on vient d'une expérience qui est l'expérience du terrain où on a rencontré des gens, etc., n'est pas tellement prise en compte. Un des directeurs à l'époque disait l'écriture c'est un sujet, un verbe, un complément, quand on a fait la proposition de tenir le premier atelier d'écriture dans ce laboratoire. Donc c'est quand même de ça dont on parle. Et en anthropologie, le lien, alors il est très ancien aussi, hein, entre littérature et anthropologie, il est très ancien. Et très pratiquement, ça se construit aussi au niveau des pratiques, des techniques, en fait, de captation au moment du terrain, hein, au moment de cette épreuve empirique, puisqu'il y a, et je sais que ça existe encore, et moi je m'oppose à cette partition, il y a cette pratique qui consiste à soit tenir un double carnet de terrain, un carnet de terrain qui serait plus où seraient consignées les choses plus subjectives, les sensations, les émotions qu'on peut avoir en faisant ce métier qui consiste à aller au-devant des gens, les rencontrer, vivre des situations avec eux, etc. Et puis un autre carnet qui serait plus objectif. C'est avant, c'est dans les éditions, c'est Claude Lévi-Strauss, les structures élémentaires de la parenté d'un côté, et puis Triste Tropique de l'autre.
Avec une partition très claire des deux types de livres, en fait.
On apprend encore aux étudiants à tenir dans le même carnet de terrain, page de droite, les choses objectives, les faits réels, et page de gauche, la subjectivité, etc. Et cette partition me semble poser problème au regard de l'activité qui est la nôtre, qui est de restituer ce qui est toujours de l'ordre d'une relation. Donc,
voilà. C'est intéressant la façon dont les anthropologues ont proposé de poser le problème. Je pense qu'ils sont un peu les seuls. Je ne vois pas très bien les historiens faire quelque chose d'équivalent et sans doute pas les sociologues non plus, Laurent Jean-Pierre.
Oui, Sophie a raison de rappeler que la vogue ou la vague ou la révolution narrativiste qui s'est faite effectivement par moments successifs depuis les années 70 a impacté différemment les disciplines, ça c'est certain. Il y a des disciplines qui sont plus sensibles à cette question de la narration. On a déjà évoqué l'histoire ou ce débat disons histoire-fiction ou histoire-littérature, et puis comme vous l'avez dit aussi, l'intérêt croisé au fond des écrivains pour l'écriture historique ou pour les sciences sociales d'un côté et de l'autre côté l'intérêt des sciences sociales pour l'écriture romanesque. Ce nœud-là est plus ou moins présent. Donc je pense que l'histoire et l'anthropologie effectivement sont des disciplines qui sont très sensibles à cette question de la narrativité, à la fois du récit comme objet, hein, et puis du récit comme pratique, du chercheur ou de la chercheuse. Évidemment, si on va du côté de l'économie et du droit, alors on a dans notre volume une contribution d'Emeric Nicolas qui s'inscrit s'inscrit dans une vague de narrativisme juridique dans laquelle il faut aussi compter François Host, par exemple, eh bien, effectivement, voilà, le droit, l'économie, bien sûr, et la sociologie, sans doute, dans une position un peu ambivalente, sont des disciplines qui sont moins sensibles à cette question du récit, même si là aussi, on pourrait reconstruire une histoire de la sociologie depuis cette question de la narrativité, ne serait-ce qu'en se souvenant que pour l'école de Chicago, oui. Et pour les livres fondateurs de l'école de Chicago, à commencer par le paysan polonais en 1919, eh bien effectivement, à la fois le récit était une matière et également un type de compte-rendu.
On pourrait encore aujourd'hui publier tous ces titres qui n'ont pas été traduits, du livre de Trather sur le gang jusqu'à...
Absolument.
Dans une collection quasi littéraire, enfin de ce qu'on pourrait presque appeler narrative non-fiction aujourd'hui, en fait, à propos de ces monographies de l'école de Chicago. Moi, ce qui me frappe, Sophie Houdard, c'est que il y a quand même, me semble-t-il, une réflexion plus grande. On a vu des livres sur le sujet paraître, mais qui semblent davantage commandés, orientés par les structures de réception des travaux que par les démarches des chercheuses et des chercheurs eux-mêmes. Je veux dire par là que les demandes des éditeurs pour produire certains types de livres encouragent à aller vers ces formes de nouvelles écritures, pour prendre un mot. Il y a, par exemple, vous parliez d'anthropologie, un anthropologue comme Boris Petrich a créé cette biennale des nouvelles écritures au MUCEM, chose qui aurait été inimaginable dans la période dont vous parliez il y a 30 ans, Sophie Houdard.
Oui, alors vous avez raison qu'il y a, le monde éditorial a changé pour faire de la place aussi à quelque chose qui, quand même, relève de l'expérimentation et d'une, je pense, d'une frustration pour des gens, disons, de ma génération et très nettement les nouvelles générations, à écrire une frustration à l'égard des publications scientifiques et de leur format qui utilisent toujours les mêmes catégories pour décrire des aspects du social qui peuvent être très différents et dans lesquels l'anthropologue est toujours impliqué, est toujours en prise. Donc là, il y a l'exemple du livre de Nastassia Martin, Croire aux fauves, qui a fait beaucoup couler beaucoup d'encre et fait beaucoup parler de lui.
Qui a été beaucoup lu aussi pour un livre d'anthropologie.
Qui a été énormément lu pour un livre d'anthropologie, qui a du coup a eu des répercussions aussi sur la carrière de Nastassia Martin. Et pas forcément dans le bon sens, mais il faut voir aussi que l'expérience qui était narrée là aurait pu être tout à fait rester dans la partie gauche du carnet de terrain. Voilà. Donc là, il y a eu aussi une envie non seulement éditoriale pour faire un buzz, mais aussi un geste épistémologique, hein, de faire sortir cette expérience-là, parce qu'elle dit énormément du rapport au monde, et donc de trouver ensuite la forme d'écriture qui convient pour raconter cette expérience. Dans le cas qui est le mien, pareil, les usages que je peux faire, le recours que je peux avoir à des formes narratives, entre autres, ça relève plus d'une expérimentation qui me permet de continuer à comprendre des faits de terrain.
Alors justement, je voulais vous donner l'occasion de présenter la manière dont vous avez écrit le chapitre de ce livre, qui est très singulier dans sa forme. C'est un chapitre qui s'appuie sur deux enquêtes de terrain, l'une menée au Japon, autour de Fukushima et de la catastrophe nucléaire de Fukushima, et l'autre à La Hague en France, toujours liées aux questions du nucléaire. Donc deux terrains, mais que vous avez décidé d'articuler en inventant un dispositif narratif. Mais j'ai envie de dire, il n'est pas seulement narratif, c'est un dispositif littéraire presque, de mise en relation donc de ces deux terrains. Je vous laisse le décrire parce que c'est une forme assez complexe et très originale pour les sciences sociales.
Alors, Le fait est qu'il n'a pas été conçu comme un dispositif littéraire. L'histoire est la suivante. Je travaille et j'ai travaillé pendant plusieurs années sur la catastrophe de Fukushima. Et il se trouve que mon histoire personnelle, familiale, me fait côtoyer de très près depuis que je suis petite le territoire de la Hague, où je vais passer mes vacances et où je me suis bien gardée et mes parents se sont bien gardés. On s'est tous bien gardés de trop s'intéresser à ce qui se passait dans la Hague, donc en très grande proximité de nous. Mais on a pris que le meilleur. Au moment où arrive la catastrophe de Fukushima, moi je suis anthropologue spécialisée sur le Japon, je commence à travailler sur la catastrophe de Fukushima et quand je reviens passer mes vacances en Normandie, j'ai un choc que au départ je ne sais pas décrire, auquel je ne sais pas faire de place. Et puis je commence à discuter avec des gens qui me parlent eux-mêmes de ce que cette expérience qui a eu lieu à 10 000 km de chez eux, au Japon, a eu comme conséquence pour eux. C'est-à-dire que d'un coup, ils se retrouvent projetés. Donc c'est vraiment, on passe dans l'imaginaire. Les gens sont en train de regarder la télévision, les images qui arrivent du Japon. Ils voient des gens en situation de catastrophe. Et d'un coup, ils se disent, c'est moi. Cette personne-là, c'est moi, c'est mon champ, c'est ma vache, c'est ma route sur laquelle je ne pourrais pas circuler si une catastrophe arrivait chez moi. Donc on est dans un régime qui est déjà, qui relève de l'imaginaire, où il y a de la spéculation qui est en marche. Et ce terrain-là, ce double terrain-là, me ramène au Japon, mais pas à Fukushima, à Rokkasho, donc au nord de la péninsule de l'île principale de Honshu. Où a été construite une usine de retraitement des déchets radioactifs sur le modèle de celle de la Hague. Voilà. Donc j'essaye de faire parler trois temps territoires, Fukushima, qui est un événement, qui a une influence dans la Hague, et entre ces trois territoires, des choses essayent de s'apprendre. Et l'idée qu'on puisse apprendre d'une expérience tellement importante, tellement forte, alors même qu'on la délocalise radicalement, était pour moi un point de départ du projet. Concrètement, je cherche à tenir les gens ensemble. Donc j'ai rencontré des gens dans la Hague que j'intéresse parce que je leur parle de Fukushima et je vais à Fukushima, j'ai cette expérience d'avoir rencontré des gens là-bas. Quand je reviens dans la Hague, je leur raconte ces histoires que j'ai entendues parler là-bas. Et par ailleurs, quand je vais au Japon, je raconte les histoires des gens dans la Hague. Et donc, je commence à assumer, d'une certaine façon, ce rôle de passeuse et d'agrandir la chambre d'écho, de résonance entre ces territoires. Et donc, le texte que je propose, effectivement, pour après la sollicitation des éditeurs de ce très beau livre, je prends la partie, non pas réflexion sur le tournant narratif, mais tournant narratif.
Proposition.
Proposition, directe. Et donc, avec l'accompagnement des éditeurs et éditrices...
Mais vous proposez une forme qui est loin du « il était une fois ». Voilà. Concrètement...
C'est une correspondance. Voilà. C'est une correspondance que j'imagine, enfin que par ailleurs, dont il a été question de la mettre en place. Hein, les gens dans la Hague, on est allé les voir, on leur a dit on va faire ça, et puis ça s'est pas fait. Mais j'ai écrit les messages que j'aurais pu leur envoyer. Et que j'intercale avec des récits très courts et qui sont des moments forts et qui pour moi font des résonances et aussi des dissonances entre les deux territoires. Donc j'articule à la fois une correspondance et puis cette forme de récit très court. Si je peux prendre encore une minute, cette forme de récit très court qui vient c'est lié à un terrain, une manière de faire du terrain l'année dernière très spécifique. Je ne vais pas pour un temps très 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 court sur le terrain de manière très dense, mais je passe 13 mois au Japon et j'attrape plein de choses qui sont dans lesquelles je ne fais pas d'hiérarchie, voilà. Et c'est cette texture-là un petit peu que je restitue.
Laurent Jean-Pierre, ça donne un chapitre, je le disais, singulier, une proposition de narration, mais on est à milieu de ce qu'on peut peut-être s'imaginer quand on parle de narration, de récit ou de tournant narratif. J'y vois quelque chose qui ressemble davantage à des expérimentations précisément littéraires du moment contemporain.
Tout à fait. C'est-à-dire que finalement, en faisant cette, non pas cet inventaire, mais en tout cas cette typologie un peu des usages du récit depuis quelques décennies, ce qui est apparu assez vite et qui n'a rien de, disons, de très perçant, hein, c'est qu'au fond, il y avait deux usages ou deux familles d'usages principaux. Hein. D'abord, des sciences sociales qui, au fond, font des récits une matière première. Avec, là encore, on peut tout à fait traiter les récits de manière au fond nomologique, hein, et donc, par exemple, Julien Duy propose de nous montrer un exercice de philomythologie. Bon, c'est quoi la philomythologie? Ben, c'est l'application, disons, de certaines règles de la biologie évolutive à l'étude des mythes, hein, pour en tracer, disons, des généalogies, des géographies. Bon, et face à lui, effectivement, Charles Delattre, lui, au contraire, s'interroge sur la possibilité de décontextualiser des mythes pour les mettre en série, hein, et pour essayer de traiter finalement les récits de manière sérielle. Donc ça au fond, c'est une partie des contributions qui font du récit une matière.
C'est particulièrement intéressant de mettre en regard ces deux articles, enfin ces deux textes sur les mythes, et qui nous invite à vraiment entretenir un rapport de lecture à ces mythes qui est radicalement différent de celui auquel on est habitué.
Oui, en réalité, on a déguisé une controverse scientifique assez vive au milieu du volume, puisqu'il y a vraiment deux approches complètement différentes, et aussi, disons, deux tendances. Alors, plus généralement, dans le travail sur la narration, au fond, il y a effectivement une tendance qui a aussi des lettres de noblesse philosophique, et dont Ricoeur était probablement, un de ceux qui en a exposé, disons, les tenants et les aboutissants de la manière la plus nette, qui au fond considère le récit comme quelque chose qui est toujours négocié, toujours situé, toujours construit, toujours reconstruit, etc. Et puis il y a une autre tendance au fond qui considère au contraire le récit comme une forme de faculté humaine un peu générique, voire universelle, voire effectivement ancrée dans le cerveau. Donc en fonction de ces conceptions du récit, ou de ces on pourrait presque dire de ces ontologies du récit, ben effectivement, il y a aussi, disons, un usage de l'objet récit qui est très variable. Et puis, à côté de ça, vous l'avez évoqué, il y a, comme le texte de Sophie Houdard, disons, des expérimentations narratives. Et là, au fond...
Juste un mot pour ajouter un élément, il y a un texte de Mathieu Letourneux aussi sur la question de la sérialité, dans la première partie de l'ouvrage, qui est donc sur...
Oui, alors, je voulais aussi en parler, mais alors, ce qui est très intéressant avec Mathieu Letourneux, qui est quelqu'un qui donc vient de la littérature, mais qui, au fond, a étendu les frontières de la littérature pour pratiquer ce qu'on appellerait dans le monde anglophone les études culturelles. Et au fond, c'est quelqu'un qui a montré l'importance, il n'est pas le seul, mais il l'a montré avec des historiens aussi, l'importance de la sérialité, au fond, comme fait culturel. Il n'y a pas de récit qui, selon lui, ne soit pas pris d'emblée dans une série. Hein. Et donc, au fond, ça permet de relativiser aussi cette pratique de mise en série des récits qu'on trouve dans les sciences et qui est effectivement un fantasme scientifique tout à fait permanent, hein, depuis le folklorisme d'une certaine manière, depuis le 19e siècle au moins, peut-être même avant, hein, depuis l'âge moderne. Et donc en réalité, on voit bien que cette question, disons, de la mise en série scientifique des récits, elle s'inscrit elle-même au fond dans une culture de la sérialité dont il nous propose effectivement dont il dispose les contours et dont il essaie de montrer qu'on peut enquêter sur elle. Alors ça renvoie évidemment aussi bien aux romans feuilletons qu'aux séries télévisuelles et à d'autres phénomènes culturels. Donc oui, la culture scientifique elle-même, ou plutôt le rapport scientifique au récit, est lui-même pris dans un rapport culturel au récit plus large. Et puis, d'un autre côté, ce qui nous est apparu, c'est qu'au fond, cette montée en puissance de la question narrative, d'abord en littérature et ensuite dans les sciences humaines et sociales, depuis les années 60-70, au fond, elle avait elle-même, disons, elle s'était reflétée, ou elle avait interrogé le discours scientifique lui-même. Hein, et c'est là, à mon avis, que la question de l'expérimentation intervient. C'est-à-dire, au fond, certains, dont Bruno Latour, se sont interrogés, sur le caractère narratif du discours scientifique. Et donc, à partir de là, ça ouvrait la voie à des expérimentations narratives de toutes sortes, non pas au nom de l'esthétique, non pas au nom de la rhétorique, non pas au nom du plaisir, non pas au nom seulement de l'émotion, qui sont au fond les arguments souvent employés pour justifier ce retour du récit, notamment du côté des intermédiaires et des éditeurs dont vous avez parlé tout à l'heure, mais au nom, disons, d'un autre mode de connaissance. Voilà. Et donc, j'évoquerai peut-être tout à l'heure d'autres expérimentations dans l'ouvrage, mais allons-y, la proposition de Sophie dans ce cadre.
Oui, donc, à côté de votre article, Sophie Houdard, on trouve trois autres textes qui font partie de ce que vous avez, enfin, que les éditeurs du volume ont titré « Expérimentation narrative », des choses très différentes dans leur proposition, dans leur forme, en fait.
Oui, là, je parlerai pas au nom des autres auteurs, mais je crois que effectivement, dans cette catégorie du volume, les textes viennent souligner un peu un point limite au-delà duquel on essaye d'aller pour tenter des choses. Hein. C'est pas l'idée, je crois, pour aucun de ces auteurs, n'est de faire école, mais c'est de dire qu'est-ce qu'on va apprendre de nouveau de ces objets qui nous intéressent.
Mais il y a une dimension de prise de risque dans la restitution,
oui,
d'une enquête.
Et je crois que c'est effectivement un des points communs aussi des auteurs que par ailleurs je ne connais pas, mais la personne dont je ne vais pas me rappeler le nom tout de suite, qui a fait ce très beau chapitre sur le droit, justement,
Émeric Nicolas
explique comment effectivement c'est tout à fait hétérodoxe. Hein,
surtout chez les juristes.
Sa proposition peut être mal perçue. Bon, voilà, moi, maintenant, je n'ai plus trop grand-chose à faire, mais j'ai aussi essuyé les foudres de personnes qui ont pu, à certains moments, m'exclure du champ de la science pour me rapprocher de force d'autres champs comme l'art. Et j'ai aucun problème avec l'art, par ailleurs.
On va en parler tout de suite avec Franck Lebovici. Alors Jean-Pierre, sur les autres expérimentations du volume, brièvement, il y a, vous l'avez évoqué, ce chapitre sur le droit qui permet de se poser la question de savoir qui parle, enfin qui est le narrateur du droit aussi, et de prendre la distance par rapport à ça. Ça, c'est un dispositif assez étonnant par rapport à ce qu'on lit d'habitude sur le droit. Mais il y a aussi des choses étonnantes sur la narrativité de la musique appliquée aux soins. Alors surtout la musique, on pourrait se dire on est à mille lieues de la narration, en fait.
Oui, Nicole Biajoli propose effectivement de restituer, disons, ce qui a été une expérience de médecine narrative, mais une expérience un peu particulière. Alors la médecine narrative, c'est une pratique qui a été inventée par Rita Charron, et une américaine. Et effectivement, il s'agit de mettre en place des ateliers d'écriture créative entre patients et soignants pour aussi accompagner les pratiques de soins et pour en partie déjouer la verticalité du rapport soignant-patient. Et puis, alors, il y a des variations autour de cette pratique, et notamment une des variations consiste à donc faire écouter de la musique à un collectif de patients et, au fond, engager après des pratiques narratives et les retravailler. Donc, elle restitue cette expérience. Oui, on n'a pas voulu être exhaustif. Bastien Boza lui parle effectivement d'une proposition de fabulation critique autour de l'histoire de l'esclavage, où effectivement les traces des victimes sont absentes. Là, c'est un vieux problème historiographique aussi, mais avec aujourd'hui des propositions qui s'engagent plus nettement, ou qui assument plus nettement la fictionalisation.
Notamment les travaux de Cédia Hartmann, dont le livre a paru cette année aux éditions du Seuil.
Tout à fait. On est face, on peut très vite retomber dans, disons, la ligne de clivage ou le front polémique dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire, le scepticisme envers des pratiques narratives qui viendraient casser, les critères de scientificité. Bon, alors on a essayé de sortir de ce débat parce que je pense qu'un des enjeux actuels, c'est précisément de montrer qu'il y a des bénéfices cognitifs qu'il faut apprendre au fond à inventorier à ces pratiques narratives, et qu'effectivement on n'est plus dans le débat, explication-compréhension ou nomologie-narrativité.
On continue de parler des sciences sociales au bord du récit, c'est le titre de ce volume de la série Enquête que vous avez co-dirigé avec Marion Fontaine, Laurent Jean-Pierre. On continue à en parler avec vous et avec Sophie Houdard, mais aussi avec Franck Lebovici qui nous rejoint dans la deuxième partie de l'émission. C'est après un extrait de l'album qui vient de sortir, nouvel album depuis plus de 20 ans de Pulp, Grown Ups.
Sylvain Bourmeau.
On parle des sciences sociales au bord du récit, aujourd'hui à la suite dans les idées, à propos de ce volume sous la direction de Marion Fontaine et Laurent Jean-Pierre. On en parle aussi, donc dans cette première partie, on en parlait aussi avec Sophie Houdard, mais Franck Lebovici nous rejoint, il est artiste, poète, il vient des sciences sociales, et il continue d'une certaine façon de travailler tout contre les sciences sociales, on pourrait dire. Il nous fait l'amitié de venir alors qu'il est en plein travail autour de ce qui se passe au Centre Pompidou, c'est-à-dire le démontage avec la dernière exposition dont le vernissage est ce soir, l'exposition de l'artiste Wolfgang Tillmans dans la BPI, la fameuse BPI, qui sera le dernier lieu d'exposition du Centre Pompidou, un travail que vous menez avec Yael Kreplak et
Marion Nakache.
Marion Nakache, tous les trois, donc un travail au long cours d'un film. Mais vous êtes aussi avec Julien Serroussi entre autres, l'auteur d'un livre « Mounsougou à la CPI » publié aux éditions de l'École des Beaux-Arts à Paris, qui est peut-être une manière d'approcher votre travail. J'ai pensé à vous inviter, Franck, parce que il me semble que depuis longtemps maintenant, vous cherchez des formes, des dispositifs visuels, écrits, pour vous arracher au fond de cette forme du récit, pour voir comment agencer, comment montrer, comment organiser des displays qui vous intéressent, des documents de l'ordre de la preuve, du témoignage en particulier. Et donc vous travaillez étroitement sur les questions de justice, ce livre sur la Cour pénale internationale en particulier. Et donc, voilà, vous êtes dans la littérature, vous devriez être celui qui commence ses livres par « Il était une fois », mais au fond, vous faites tout le contraire.
Alors, je suis loin d'être le premier, hein, c'est une vieille histoire en poésie. Enfin, pour prendre des très grands, très gros jalons un peu grossiers, la préface de « Un coup de dé jamais n'abolira le hasard » de Mallarmé, au milieu de cette préface, Mallarmé dit « On évite le récit ». Donc, disons que la poésie moderne commence avec cette mise à distance du récit. Et à la place du récit, il y a évidemment beaucoup de chemins, beaucoup de pratiques différentes, mais une d'elles consiste à chercher, pour utiliser le terme qui a été utilisé en première partie, des dispositifs d'écriture, avec l'idée que la poésie ou l'art peuvent produire des formes de savoir, ont des pratiques, ont des méthodologies et peuvent fonctionner aussi comme des boîtes à outils, au même titre que la boîte à outils des sciences sociales, que la boîte à outils du droit. Et ce qui disons l'approche qui m'intéresse, c'est de considérer par exemple que si vous prenez l'expression écriture scientifique, c'est intéressant de remarquer que le nom commun de l'expression c'est écriture et que scientifique n'est qu'un adjectif. Et que, en fait, qu'on soit en science, qu'on soit en droit, qu'on soit en littérature, on est dans des problématiques d'écriture et dans des dispositifs d'écriture. Alors, les dispositifs, par exemple, à la Cour pénale internationale, pour faire des résumés d'audience, ça relève de l'écriture. Ils vont faire, par exemple, à la fin de chaque journée, je caricature un petit peu, mais un tableau à deux colonnes avec, à gauche, les éléments à décharge que le témoin a prononcé contre l'accusé, et à droite, les éléments à charge. Cette façon de faire des résumés, c'est une manière, mais il y a plein d'autres manières de faire des résumés. Et quand on était avec Julien Serroussi à la Cour pénale, on a suggéré que, par exemple, les manières qu'utilise le poète objectiviste Charles Reznikoff pour faire des résumés d'audience à partir de transcrits est peut-être tout aussi intéressante, si ce n'est plus, en termes de enregistrement de l'information pertinente, plutôt que ce tableau à double colonne. Une des choses qui est intéressante, et je pense que les anthropologues et les sociologues seront d'accord sur ça, c'est cette idée que les données brutes, les données à partir desquelles travaillent les chercheurs en sciences sociales, sont tout sauf brutes. Il faut les produire. Et que ces données brutes, eh bien, on les produit avec des dispositifs qui sont un mélange de displays, d'instruments, de flair.
D'objectivation diverses et variées.
Oui, de pratiques qu'on retrouve aussi en art. C'est un moment, en fait, assez indifférencié. Les choses se distinguent plus tard, mais ce moment indifférencié du dispositif, il traverse, en fait, toutes les disciplines. Et l'idée que la poésie et l'art peuvent mobiliser leurs propres dispositifs pour les faire circuler dans d'autres disciplines, c'est un petit peu l'approche que j'utilise.
C'est intéressant ce que vient de dire Franck Lebovici, parce que, au fond, c'est très congruent avec la proposition de Sophie Houdard, de trouver un mode, je ne sais pas ce que vous en pensez, Sophie, de trouver un mode de présentation, d'exposition d'un travail de recherche. Et en même temps, c'est à rebours de la forme dont beaucoup de chercheuses ou chercheurs ont l'impression d'aller chercher quand ils se tournent vers les littératures, en fait. C'est une littérature expérimentale aussi, au sens de expérience, hein, pour reprendre le sous-titre de la partie dans laquelle votre texte est inséré.
Tout à fait. L'autrice, moi, dont j'ai beaucoup appris et dont j'apprends encore beaucoup, c'est par exemple Maëlys de Kéringal, qu'on avait fait venir dans mon laboratoire à un moment donné, dans un atelier d'écriture, et qui nous avait expliqué que pour elle, l'important, c'est que ça parle, avait-elle dit, en insistant sur le ça. Qui donc se rejoue de situation en situation, de roman en roman pour elle. Et pour moi, ça avait été vraiment un déclic de me dire, bah, effectivement, ce que vous avez dans ce livre-là essaye une certaine forme, mais le travail que j'ai réalisé sur l'enquête que j'ai réalisée pendant des années, pendant plus de 10 ans dans la région de Fukushima, c'est une monographie au final qui travaille une forme très différente basée sur une chronologie, la chronologie d'une enquête, et ça n'a rien à voir avec l'écriture qui est là. Et le prochain terrain essayera une autre forme qui aura pour fonction de faire parler ça. Voilà, c'est pas le...
Franck Lebovici, je voulais que vous reveniez sur la manière dont vous réfléchissez à la mise en place de ces dispositifs quand vous travaillez avec les magistrats ou les juristes de la Cour pénale internationale. Vous réalisez à quel point ils sont face à une quantité phénoménale de documents, de pages écrites, de documents de statuts divers, d'images, etc. Et au fond, vous réfléchissez à la manière dont vous pouvez inventer un dispositif cognitif dont l'objectif n'est pas de faire joli ou de faire beau, de faire de l'art au ce sens-là, mais véritablement de les aider à faire leur travail en trouvant des formes de présentation, de mise en relation de ces données, de ces documents.
Et ça, c'est-à-dire qu'on est à 1000 lieues d'une conception de l'art ou de la poésie qui produirait des représentations a posteriori qui permettraient, disons, une vulgarisation ou une accessibilité à un public non connaisseur. L'idée, c'est finalement de reconnecter écriture et action ou art et action. Et pour ça, d'abord, je suis jamais seul, je travaille toujours de façon collective parce que j'ai pas le savoir, évidemment, ni des juristes, ni des sociologues, ni de n'importe qui. J'ai aucun savoir. En revanche, l'idée de départ, c'est de partir des pratiques en place. Comment les gens travaillent? De leurs pratiques ordinaires, et de voir s'il y aurait d'autres manières de faire qui pourraient un petit peu modifier leurs pratiques, qui leur permettraient de produire un autre type de savoir. Alors là, effectivement, les juristes internationaux, quand ils font leurs études, ils sont entraînés avec du texte. Ils sont entraînés à lire des livres, à faire de la théorie. Ils ne sont pas entraînés à regarder des images, à faire des visual studies, par exemple. Or, aujourd'hui, on voit bien qu'avec les téléphones portables, les crimes de masse, ils sont documentés avec des milliers d'heures de vidéos, avec des milliers ou milliards de photos, etc. Et donc, en art, manipuler les masses d'images, on est très habitué à ça. Et proposer des dispositifs qui viennent de l'art pour apprendre à circuler dans ces masses d'images, c'est quelque chose qui circule très facilement. Les juristes, d'ailleurs, ou n'importe quel autre ordre de métier, vont avoir comme premier réflexe de dire « Ah, mais moi, la poésie contemporaine ou l'art contemporain, je n'y connais rien. » Mais dès qu'ils comprennent que c'est un outil, ils disent « Ah, en fait, c'est un outil d'aide à la décision. Alors, ça va. » Et là, le courant passe très bien.
Laurent Jean-Pierre, ces collaborations sont particulièrement intéressantes. C'est-à-dire qu'on est, on n'est plus du tout dans... la situation dans laquelle nécessairement le chercheur ou la chercheuse est avec ses données, ses carnets de recherche, etc., et puis se gratte la tête pour essayer de trouver, face à la page blanche, la manière de restituer tout ça. Au fond, on est dans des collaborations. Ça me faisait penser, en entendant Franck Lebovici, à ce que font des collectifs comme Forensic Architecture, par exemple, qui mettent autour de la table des compétences extrêmement diverses d'architectes, de gens qui savent utiliser la vidéo 3D, les analyses d'images ou que sais-je, pour essayer de produire des objets complexes qui nous aide à mieux comprendre des choses très précises, des situations de violence policière ou des situations de guerre en particulier.
Oui, on a amplifié et un peu déplacé le débat, effectivement. Ce que je veux retenir de ce que vient de dire Franck sur le au fond ses pratiques, et aussi sur ce qu'est la littérature, qui n'est pas exclusivement narrative, il y a toute une critique de la narration, évidemment, qui a toujours été très forte en littérature, c'est qu'effectivement, l'esthétique des dispositifs dont il parle, ou la littérature expérimentale dont vous avez parlé, au fond, nous rappelle que voilà, il n'y a pas que du récit dans l'écriture. Et donc ça, c'est ce qu'on probablement un peu oublié les narrativistes ou les narratologues, qui eux cherchent effectivement du récit partout, d'ailleurs au-delà même de la littérature, parce qu'un des mouvements de cette vague narrative dont je parle depuis tout à l'heure, c'est d'essayer de lire ce qui n'est pas littéraire comme récit.
Les images en particulier.
Les images, la musique, on en a parlé, les installations d'art contemporain par exemple. Et donc au fond, il me semble que la discussion s'oriente un peu vers l'idée que c'est peut-être pas de récit dont il faudrait parler, mais c'est plutôt de montage, hein, ou de dispositif. C'est-à-dire, au fond, il est question plutôt de, dans les pratiques dont Franck témoigne, dans les pratiques que Sophie a exposées, et aussi, au fond, dans n'importe quel article scientifique, il est plus question de montage que d'avoir à choisir entre, disons, une narration ou autre chose, je sais pas, des tableaux, des modèles, des graphiques, de la visualité, etc. Et donc, au fond, la question, c'est comment on monte et pas comment on raconte.
Franck Lebovici.
Peut-être, du point de vue de quelqu'un qui est extérieur aux sciences sociales, une chose qui m'intéresse, moi, dans les sciences sociales, c'est la bizarrerie, c'est l'étrangeté de certaines théories, de certaines disciplines. Je sais que quand j'ai découvert l'ethnométhodologie ou l'analyse conversationnelle ou les science studies, ça m'a laissé totalement ébahi parce que c'était des approches ou des angles d'attaque tellement étranges. Et ce qui est très important, enfin le plaisir que j'ai moi quand je lis des sciences sociales, c'est cette étrangeté. Et j'ai parfois l'impression que la tendance de certains chercheurs à mettre en récit va invisibiliser cette méthodologie, cette bizarrerie, pour lisser en fait par du récit en voulant se rapprocher de la littérature. Alors que c'est le cœur de la chose, c'est justement cette chose qui n'est pas réductible à de la mise en récit dans les sciences sociales ou dans la poésie.
Alors Jean-Pierre, faudrait être plus inventif dans les formes, dans les formes des livres. C'est déjà formidable qu'un livre collectif comme celui-là puisse, 30 ans après le début de cette série, continuer d'être produit, de voir le jour. Ça faudrait peut-être déjà commencer par le saluer, parce que ça devient de plus en plus difficile dans le paysage éditorial aussi.
De toute façon, là, on est aussi sur des régimes d'exigence très variés. Il y a l'exigence, disons, d'expérimentation dont on vient de parler, l'exigence, disons, de restitution de données d'enquête et puis de construction d'enquête. Et puis, il y a aussi, effectivement, l'exigence de la preuve dont on a parlé, qui, elle, est au fond, pas celle dont on parle beaucoup ce soir, puisque c'est celle qui est plutôt dans les revues, avec des modes...
Très beau numéro de la revue Tracé qui vient de paraître sur la question de la preuve.
Justement. Des modes d'exposition qui sont extrêmement disons standardisé. Là, on fait un plaidoyer collectif pour une diversité des pratiques au fond d'administration de la preuve, d'écriture et de construction d'enquête. Mais on sait très bien aussi que dans toutes les disciplines dont on vient de parler, il y a des régimes discursifs dominants, qui sont souvent anglophones, il faut bien le dire. La question, c'est quelles sont quelles niches ou quelles marges restent pour des pratiques expérimentales. Donc je crois que là, ça c'est effectivement un chantier très collectif et qui doit aussi se faire avec des artistes.
On peut, là, vous êtes en train de travailler un film, Franck Lebovici. On voit de plus en plus, on n'en a pas parlé, mais aussi de tentatives filmiques pour les sciences sociales. Ça vous paraît une voie encore trop peu expérimentée?
L'anthropologie visuelle existe quand même depuis pas mal de temps.
Du côté de l'anthropologie, oui.
Mais là, c'est aussi pour ce projet, donc je travaille avec Marion Nakache qui fait du cinéma d'observation, documentaire, et Yael Crépla qui vient de l'ethnométhodologie. Son premier outil, c'est d'enregistrer des cours d'action.
Et qui travaille sur les musées.
Et qui travaille sur les musées, sur la vie ordinaire des œuvres d'art. en dehors des moments publics. Ça me semblait, là encore, pour ces questions de point de vue, très important de travailler avec ces deux personnes, parce que elles ont tout d'un coup des approches où elles voient des choses que personne d'autre ne peut voir, parce qu'elles mobilisent leur discipline pour être sensible à certains aspects. Et là, on filme, si vous voulez, le démontage des œuvres avec cette hypothèse hyper bizarre que les œuvres se comportent d'une façon tout à fait singulière quand on les démonte. C'est-à-dire qu'elles n'exhibent pas les mêmes propriétés quand elles sont exposées et stabilisées dans une expo que quand vous commencez à les manipuler à plusieurs et à les démonter. Et elles vont avoir d'autres propriétés qui vont se révéler.
Ou elle est montée, j'imagine, pareil.
Elle est montée, mais ce n'est pas tout à fait les mêmes propriétés du montage ou du démontage. Mais disons que c'est un moment qui est hyper rare, parce que seuls les artistes et les professionnels y ont accès habituellement, où tout d'un coup, elle se comporte d'une façon très étrange.
Chose qu'a pu montrer Fred Wiseman dans son film sur la National Gallery, voilà, par exemple.
Alors voilà, l'idée de faire ça en film, c'est une façon de rendre public aussi ce moment tellement rare et tellement joli, quoi.
Donc, il faudra attendre sans doute pour le voir un peu ce film, puisque c'est en train d'être tourné en ce moment même.
Première version 2027 pour les 50 ans et du Centre Pompidou, et deuxième version plus installative 2030 pour la réouverture du Centre Pompidou.
Merci Franck Lebovici. En attendant, on peut lire et regarder Moussoungou à la CPI, le livre que vous avez réalisé avec Julien Serossi sur ce travail dont on a parlé, Beaux-Arts Éditions, et puis lire le fort volume Sciences sociales au bord du récit dans la collection Enquête des éditions de l'EHESS, sous la direction de Laurent Jean-Pierre qui était là ce soir, et de Marion Fontaine, avec notamment le texte de Sophie Houdard dont on a parlé. On trouve toutes les références bibliographiques sur la page de l'émission.
France Culture, la suite dans les idées, Sylvain Bourmeau.
Et on continue de parler de collections de livres avec vous, Paul Pasquali, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue et vous co-dirigez avec Fabien Truong une collection importante d'ouvrages de sciences sociales qui fête en ce moment, qui fêtera mardi 17 juin au Point Éphémère pour les Parisiens, et en présence de quasiment tous les auteurs de la collection, c'est 10 ans. Une collection qui s'appelle L'envers des faits, et quand j'ai regardé l'affiche que vous avez réalisée pour ces 10 ans, y a beaucoup, beaucoup de couvertures de livres que j'ai reconnues, parce que beaucoup ont fait l'objet de suites dans les idées. C'est un des rares endroits où on peut publier des enquêtes de sciences sociales, des livres de monographie qui ne sont pas des livres de synthèse, qui ne sont pas des livres purement théoriques, qui sont des livres qui parlent de travaux de sciences sociales. Et j'insiste beaucoup là-dessus parce que ça m'alarme. Ces dernières années, je vois ce type d'ouvrage se faire de plus en plus rare dans les maisons d'édition. Et donc, je voulais qu'on salue ce soir avec vous la collection L'envers des faits et sa bonne santé, Paul Pasquali.
Eh bien, merci de cette invitation. En effet, c'est une collection qui essaie autant que possible de défendre une certaine idée des sciences sociales et aussi du métier d'éditeur. En découvrant des jeunes chercheurs, en faisant tout un travail de défrichage de sujets, d'enjeux qui ne sont pas assez mis en avant dans l'espace éditorial, et qui suit pour principe, disons, éditoriaux, la ligne éditoriale de la collection, si je pourrais la résumer, c'est de prendre en compte davantage le lecteur et d'écrire des livres qui puissent se diffuser le plus possible en gardant l'exigence de rigueur qui est propre aux sciences sociales. Donc, à la fois une exigence d'accessibilité, avec une écriture fluide, incarnée, embarquée, mais une rigueur aussi, des enquêtes ethnographiques ou socio-historiques solides, de longue haleine, fouillées, et donc quelque chose qui éviterait à la fois l'académisme d'un côté et l'essayisme.
Alors, on n'a pas donné de nom. Il y a beaucoup de livres dont on aurait pu parler à propos de la première partie de l'émission et de la deuxième partie de l'émission aujourd'hui, parce qu'il y a des livres qui ont proposer des formes de récits originaux, des formes de mise en récit d'enquête en particulier. Pour prendre un exemple récent, l'un des livres avec lequel on a ouvert cette saison de La Suite dans les idées, Le Prophète Rouge de Julie Pagis, par exemple, mais j'aurais pu citer aussi le très très beau livre de Christine Détré, à partir d'une enquête familiale. J'aurais pu en citer énormément, au fond, le livre d'Ashley Mears, qui était venu en parler, à partir d'une ethnographie aussi de ce monde des boîtes de nuit. On trouve des choses très étranges, des mondes de boîtes de nuit jusqu'aux campagnes de Benoît Coquart, qui est un livre qui a rencontré aussi un public un peu plus large que celui habituel des sciences sociales, Paul Pascoli.
Oui, la particularité de cette collection, c'est qu'elle s'adresse au grand public. Donc il y a un certain nombre de titres comme ça qui ont pu avoir un grand écho au-delà du lectorat habituel des sciences sociales. On pense à Benoît Coquart, pour ceux qui restent, à Lisette Delpierre, Servir les riches.
Suite dans les idées encore, aussi. Hein, oui.
Voilà, le genre du capital, Céline Bessières, Sybille Golac, etc. Rosemarie Lagrave, Se ressaisir. Et l'idée, c'est de garder toujours pour principe de défendre une collection, c'est-à-dire un lieu, un endroit. Qui puisse défendre une cohérence intellectuelle, un univers avec ses questions, ses méthodes, ses exigences, une cumulativité aussi des savoirs, d'ouvrage en ouvrage, qui peuvent se répondre, qui peuvent se compléter, tout en veillant à chaque fois à offrir un regard original, décalé, d'où le titre de la collection, L'envers des faits, un regard qui permette de remettre en circulation des savoirs qui viennent nourrir le débat public et qui viennent revivifier aussi une démocratie qui en a bien besoin. Et défendre les sciences sociales à travers une collection, c'est une manière de mettre en débat, de mettre en lumière des enjeux qui sont souvent mal posés, qui sont souvent maltraités ou peu traités dans les débats entre responsables politiques notamment.
Alors on trouve dans cette liste des auteurs, hein, vous en avez cité, j'en ai cité aussi, des gens qui sont d'ailleurs pas forcément toujours d'accord sur tout, loin s'en faut. Il y a aussi un certain pluralisme de l'approche sociologique entre ce que peuvent faire aujourd'hui Stéphane Beau ou Gérard Noiriel et puis d'autres chercheurs plus jeunes. Il y a aujourd'hui de vraies différences d'approche, Paul Pascoli.
Tout à fait. Et c'est une autre particularité de cette collection, les éditions de la Découverte en général, c'est d'assumer un pluralisme théorique, une manière de créer du débat, justement, entre des options théoriques, entre des courants qui ne sont pas nécessairement d'accord sur tout, mais qui peuvent partager un certain nombre de principes communs, et notamment l'importance de l'enquête, l'importance de disposer d'indices et de preuves empiriques. On ne parle pas dans le vent quand on fait des sciences sociales. Et effectivement, certains ouvrages peuvent se répondre assez directement. Par exemple, Sylvain Patieux dans Panthères et Pirates, c'est une enquête sur donc des Black Panthers qui ont détourné un avion, etc., dans les années 70. Et tout l'enjeu de cette enquête, c'est d'offrir une réponse aux grands débats qui ont pu traverser à un moment donné les sciences sociales sur la question notamment de la race et de la racialisation.
Alors j'en oublie peut-être d'ailleurs, en fait Paul Pascoli, mais je me viens soudainement à l'esprit un écho avec la première partie de l'émission, c'est que celui qui co-dirige la collection avec vous, Fabien Truong, mais aussi un certain nombre d'auteurs présents dans la liste, et je pense à Sylvain Patieux que vous venez de citer, ou Christine Détré en particulier, sont des gens qui, à côté de leur activité de chercheurs et de chercheuses, sont aussi des écrivains ou des écrivaines, ont écrit dans le registre de la littérature. Ça me semble, ils sont trop nombreux pour qu'on puisse penser que ça relève strictement du hasard, Paul Pascoli.
Alors c'est vrai qu'il y a cette recherche d'une, on en parlait tout à l'heure avec les autres invités, une expérimentation de nouvelles formes d'écriture qui a été, je dirais, un peu le point de départ de la création de cette collection en 2015. Auparavant, il y avait la collection Enquête de terrain qu'avaient créé en 2001 Stéphane Beau et Florence Weber, et L'envers des faits a pris la suite quelque part et a radicalisé cette recherche de narration, en tout cas d'une forme de narration compatible avec les exigences propres des sciences sociales. Et en effet, un certain nombre d'auteurs, alors vous avez cité à juste titre Christine Détré et Fabien Truong qui ont aussi des ouvrages de littérature, mais d'autres auteurs encore peuvent s'inspirer de la littérature. Je pense notamment à Rosemary Lagrave dans Se ressaisir, qui en fait va, à travers une enquête autobiographique, repenser complètement le genre éculé de la mémoire des mémoires des grands hommes ou des autobiographies de transfuges de classe. Et au fond, ce qu'on essaie de faire, c'est de proposer une autre forme d'écriture qui varie d'un auteur à l'autre, qui n'oublie pas la différence entre la réalité et la fiction, entre l'imagination sociologique et l'imagination littéraire. Ça, c'est très important. On est sur la recherche d'un compromis, d'un bon compromis, entre d'un côté la logique de la preuve et de l'autre côté l'imagination sociologique.
Merci, merci beaucoup Paul Pasquali. Je rappelle donc les 10 ans de cette collection L'Envers des Faits, tous ces titres disponibles, beaucoup repris en format poche, d'ailleurs aux éditions La Découverte, c'est une initiative de cet éditeur. Merci à vous. C'était la suite dans les idées. Sylvain Bourmeau avec Seam Boutata. À la technique ce soir, Olivier Arnay. À la réalisation, Jean-Christophe Francis.
Vous écoutez France Culture.
On termine la semaine avec deux expositions, GB, un génie du dessin de presse à la BNF, et Maximilien Luce, l'instinct du paysage, au musée de Montmartre.
Marie Laborie.
Et puis je recevrai le cinéaste Robin Campillo pour Enzo, dont il a poursuivi la réalisation après le décès de Laurent Cantet.
Les midis de culture, demain à midi sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
France Culture propose une nouvelle collection de podcasts, Les Aventuriers de l'archéologie. Des découvertes racontées sous forme d'enquêtes par les archéologues qui les ont faites. Un paléopolar.
La première découverte de restes humains vraiment significatifs, elle a lieu en 2007.
Les Aventuriers de l'archéologie, l'énigme d'Hyrud, un si vieux sapiens, par Jean-Jacques Hublin, réalisation Assia Weber, une nouvelle collection de 4 épisodes à découvrir sur franceculture.fr et l'appli Radio France.